Alors, Monsieur le Président, la France est, donc on peut lire dans le document, dans un contexte de maîtrise des finances publiques. Alors, on se pose quand même des questions parce qu'on a un peu l'impression que l'État se moque de nous, les collectivités en général. En quoi serait-il exemplaire pour leur faire la leçon? Puisque partout, on peut le lire aussi dans le document, la France est le mauvais élève de la zone euro. Croissance, chômage, dette, déficit public. Et c'est quand même assez déplacé d'incriminer dans ses résultats le mouvement des Gilets jaunes, puisque le retard français ne date pas, que je sache, de novembre 2018. Alors, à cette demande instante de nos concitoyens de moins d'impôts et de mieux d'impôts, si je peux dire, que disent ces orientations budgétaires? Alors là, je ne donnerai pas forcément un satisfecit, comme vient de le faire M. Horry. Comme d'habitude, la présentation de la situation financière donne une illusion de collectivité peu endettée, puisque ça c'est une répétition, et camouflée dans un budget spécial, l'endettement, l'emprunt du Métis, qui représente 60% de l'encours de dette et double l'endettement par habitant et nous fait dépasser la moyenne nationale. Et la tendance est mauvaise. Regardez le tableau, page 14. L'encours de la dette consolidée a remonté de façon spectaculaire en 2018. Et avec les 22 millions prévus en 2019, on dépassera largement le pic de début de mandat. Merci le futur siège à 33 millions. Il était affiché tout à l'heure à l'écran. Avec des emprunts, je souligne quand même, qui sont sur 25 ans, 30 ans, voire 40 ans. Et je me dis qu'on sera encore en train de rembourser ce bâtiment qu'il sera depuis longtemps devenu obsolète sur le plan énergétique comme pour le reste. C'est un non-sens. Alors qu'on aurait pu rénover un bâtiment de notre patrimoine, ça aurait été un investissement d'avenir durable. Mais les dés sont jetés et je vous en conjure, ne tentez pas d'humaniser ce projet en l'appelant la maison de la métropole, parce qu'une maison à 10 000 mètres carrés et qui coûte 33 millions d'euros, je crois que nos citoyens ne comprennent pas cet humour-là. Les dépenses de fonctionnement maintenant vont augmenter au maximum que l'État autorise, 1,2 million. Vous espérez pouvoir ajouter les dépenses de métropolisation, ce qui aurait un sens, mais pour faire quoi de cette capacité à dépenser plus? Déjà, donc, des postes ont été créés l'an dernier pour absorber le passage en métropole. Si je me souviens bien, c'était 300 000 euros de masse salariale, donc ça devrait être plus en année pleine. Et donc le palais de la métropole qui va coûter 300 000 euros pour les intérêts. Il me semble qu'il est important, au contraire, de garder des marges de manœuvre. C'est important vu les perspectives de 2019. En matière de personnel, j'ai beaucoup apprécié donc le plan de titularisation des agents contractuels et de passage de concours administratifs qui nous avait été présenté, qui a été réalisé l'année dernière. Et alors qu'on est quand même de la part du président Macron vers un plan d'ubérisation de la fonction publique, on en entend parler dans les mois à venir, là il faudra de l'argent pour garder une fonction publique de qualité, au lieu de multiplier les satellites par facilité, qui nous coûtent de plus en plus cher et qui sont moins contrôlables. Gardons des marges de manœuvre aussi pour mieux exercer le service public partout. Là, je pense par exemple à l'enveloppe exceptionnelle qui est significative de 1 million d'euros pour les voiries dégradées. Ça, c'est le travail de la collectivité. Et je conclurai sur l'actualité sociale et cette attente de nos compatriotes qui n'en peuvent plus de voir confisquer le fruit de leur travail. Or, le message que vous envoyez, c'est ceci. Une fiscalité des ménages dont le produit augmente de plus d'un million. Une fiscalité professionnelle dont le produit augmente de presque 1 900 000 euros. Et que dire de la fiscalité spécialisée? Alors, la taxe sur l'enlèvement des ordures ménagères qui baisse, c'est bien, mais ça n'est pas un cadeau. C'est la correction des ponctions disproportionnées des années passées. C'est ce que nous avons dit depuis le début. Et c'est ce que la loi de finances 2019 confirme, voire page 7. Et le pire, c'est quand même la TCCFE, la fameuse taxe, dont les habitants sont en train de découvrir sur leur facture d'électricité qu'il y a une explosion de la part du AMS Métropole. Et vous leur répondez, je cite, qu'il faut exercer de façon plus volontariste les compétences transférées, précisément, et, je cite encore, renforcer la solidarité avec le reversement de 50% aux communes. Alors là, c'est presque comique quand on sait que les grosses communes ont gardé pour elles 100% du produit de cette taxe, ce qui représente plus de 2 millions pour Metz, la ville de Metz. satisfecit. Donc non, pour conclure, je le dis, cette fuite en avant n'est plus supportable. Il est urgent, il est devenu urgent de recentrer l'action de Metz Métropole sur l'essentiel, en bannissant les gadgets sans suite, sans suivi, hors compétence, l'emballement des satellites et donc cet appétit fiscal qui est hors de propos. Beaucoup de nos concitoyens attendent ce retour au bon sens.
Monsieur Lebeau.
Monsieur le Président, chers collègues, j'ai bien écouté le vice-président et j'ai entendu les satisfecits qu'il a donnés en disant bravo et merci. Bravo et merci pour les collaborateurs de Metz Métropole, bien évidemment, puisqu'ils ont tenu la maison. Mais surtout, il manquait quelqu'un dans le bravo et merci. Le contribuable. Le contribuable sans qui, aujourd'hui, nous serions comme en 2015 au bord du gouffre. Parce que entre... Non mais si, monsieur, je sais que ça vous déplaît, mais je vais vous rappeler quelques chiffres. Entre 2014 et 2018, les impôts et taxes ont augmenté de 20 millions d'euros. Je fais le décompte. Taxes d'habitation et taxes foncières, 10 millions d'euros. TOM, taxes sur les enlèvements d'ordures ménagères, 4 millions d'euros. Versement transport, 4 millions d'euros. Et enfin, la taxe GEMAPI, 1,1 million. Soit 20 millions d'euros. Merci qui ? Merci le contribuable, tout simplement. Donc cette bonne santé financière, parce que je rappelle les propos tenus par notre même vice-président, qui, quand on a voté le DOB de 2015, nous disait que nous étions au bord du gouffre. Et quelques années plus tard, nous voici en bonne santé financière. Alors, cette bonne santé financière, on peut s'en réjouir. Mais les familles et les entreprises ont été rudement mises à contribution depuis le début de cette mandature. Et je vous rappelle juste que ce matraquage fiscal, excusez-moi de ce terme, avait pour cause la baisse de la DGF. Et aujourd'hui, pas un mot sur la DGF. Est-ce que vous avez entendu le mot DGF ce soir ? Ben non. Mais on nous a dit, c'est la DGF qui baisse. Alors, juste pour mettre en lumière et en perspective les propos au long, parce qu'à un moment donné, il faut regarder le film. Entre 2014 et 2018, la DGF a baissé de 8 millions versus 20 millions de ponctions supplémentaires. Et on aboutit à quoi ? Alors, au résultat du compte administratif de 2017. C'est quoi le résultat du compte administratif de 2017 ? C'est que sur un excédent de la section de fonctionnement qui s'est élevé à 12 951 000 euros. Alors, vous pouvez vous réjouir, 12 951 000 euros. Mais le problème, c'est qu'on est limité maintenant en dépenses à 1,2%. Et ces 1,2%, c'est exactement le montant de l'augmentation de la masse salariale, due au GVT, etc., et aux éléments. C'est-à-dire que, et si on ajoute les 300 000 euros d'intérêt que vous avez voté sur Centralia, c'est-à-dire qu'on a une hausse de 1,5 million d'euros, alors qu'on doit limiter la hausse à 1,2 million d'euros. Donc, il faut faire des économies à hauteur de 300 000 euros. Et on arrive à quoi ? À l'Aguram, qui est dans une situation financière des plus complexes, alors qu'elle vous rend des services tout au long de l'année. Elle est en déficit, l'Aguram. Parce qu'à un moment donné, en 2015, on va dire, on est au bord du gouffre, alors on diminue. Et aujourd'hui, on se retrouve dans des situations incohérentes. Alors, j'ai entendu aussi la mutualisation. Alors, la mutualisation, on peut revenir aussi sur le film. Non, monsieur le Président, c'est un DOB et c'est 10 minutes. Donc, sur la...
C'est 2 minutes.
Non, mais c'est très, très important. Je sais qu'à un moment donné, de voir le temps, la mutualisation. Juste, rappelez-vous de quand elle a commencé, la mutualisation.
Juste respecter les collègues.
En 2012, elle a commencé, la mutualisation. Aujourd'hui, c'est combien d'emplois qui sont touchés par la mutualisation ? 200 personnes. 200 personnes qui sont mutualisées entre la ville et la métropole. Un budget de 11,8 millions d'euros mutualisés. Pour quel bénéfice? Pour quel résultat? Pour plus. Parce que si vous regardez les sommes de mutualisation, aujourd'hui, la mutualisation n'a abouti à aucun effet de synergie. Alors, je ne reprendrai pas la DSI, parce que c'est vraiment le mauvais élève. Mais même les nouveaux services qui ont été mutualisés en 2018, il n'y a pas... s'il vous plaît, je ne vous ai pas interrompu. Je ne vous ai pas interrompu.
Poursuivez, monsieur Lebeau.
Merci.
Mais de façon courte, s'il vous plaît, pour le respect
à un moment donné,
de chacun.
Il faut accepter la contradiction et les chiffres. Les chiffres sont les chiffres, les chiffres, tout le monde les aura dans les comptes administratifs, il n'y a qu'à les relire. À un moment donné, c'est les chiffres, j'y peux rien. Si à un moment donné, on ne peut plus regarder en arrière pour savoir où on veut aller, c'est compliqué, je le comprends. Mais aujourd'hui, la mutualisation n'a aucun effet positif en termes d'impact budgétaire. Et ça, il faut le dire. Aujourd'hui, on arrive à quoi? À une dette qui a certes diminué entre 31 décembre 2013 et le 31 décembre 2018, mais si on regarde au 31 décembre 2019, on sera au-dessus, puisque depuis 2 ans, la dette augmente, on va repasser la barrière des 200 millions. Vous le verrez quand on va présenter ce budget. Donc, si on compare à la dette, l'encours de dette au 31 décembre 2008 versus 31 décembre 2019, c'est 183 millions d'encours de dette supplémentaires. C'est-à-dire qu'on a augmenté les impôts de manière très importante et on a augmenté l'encours de dette. Sans parler maintenant des astuces d'encours de dette qu'on met dans les satellites, et ça on verra juste sur l'autre des décisions sur la SAEML ou sur les structures du type MES-Congrès, où là, pour cacher un peu la dette, on la met dans les satellites. Mais globalement, c'est notre dette. Donc, juste pour vous dire que vous avez bien ça à l'esprit.
On ne dissimule rien et on est dans la transparence, c'est tout.
Alors, oui, j'ai
achevez, s'il vous plaît, votre réquisitoire.
Je comprends.
Monsieur le procureur, allez-y.
Non, mais il n'y a pas d'accusé.
C'est bon,
on
arrête là maintenant.
Ça s'appelle la démocratie.
Oui,
vous avez votre point de vue.
La démocratie, ça ne consiste pas à emmerder les gens. Alors, continuez. Voilà. Vous embêtez tout le monde, là.
Monsieur le Président, vous venez de dire que...
Oui, parce que vous embêtez tout le monde. Il est 23h, là. Vous avez vu l'heure qu'il est.
Ce n'est pas moi qui ai fait l'ordre du jour, monsieur le Président. Le seul maître de l'ordre du jour, c'est vous. Donc, monsieur le Président, et je vous prierai juste d'avoir des propos non grossiers.
D'accord, je suis d'accord avec vous.
Ok, merci, monsieur le Président. Moi, je n'en ai pas à votre encontre, n'ayez pas envers moi. Donc, je reviens sur des propositions. Je soutiens votre proposition de diminuer la TOM que j'avais dit lors du débat d'orientation budgétaire de 2018 qu'on pouvait la baisser de 10%, je reviens juste aux propos qui sont enregistrés. Votre président, vice-président, avait dit que c'était impossible. Ce qui est marrant, ce qui était impossible hier, l'est aujourd'hui. Mais ça, c'est juste pour l'anecdote. Je confirme mon opposition sur la généralisation de la taxe sur l'électricité sur toutes les communes. Aujourd'hui, avec un résultat aussi important qu'il va y avoir en 2018 et en 2017, cette hausse de fiscalité n'est absolument pas nécessaire, puisqu'on ne peut plus dépenser. Aujourd'hui, il y a lieu de repenser et de ramener le taux à zéro. Ensuite, je demande une réflexion approfondie sur les recettes du budget annexe transport, afin d'étudier les possibilités de réduire le taux du versement transport. Du fait des problèmes de difficultés financières, on est passé de 1,8 à 2, et sachant que ce versement transport a eu pour conséquence quoi? D'influer la décision de Bon Secours de rester sur notre territoire. À un moment donné, les hausses de fiscalité ont des conséquences.
Non.
La conséquence, c'est...
Ça n'a
rien à voir. Mais bien sûr que si, à un moment donné, regardez les calculs qui ont été faits et réécoutez le débat qui a eu lieu dans cette assemblée, vous verrez que bon nombre de personnes ont parlé des problématiques de comparaison fiscale. Ce qui était vrai il y a 2 mois ne l'est plus aujourd'hui. Vous pouvez me lapider si vous voulez aussi maintenant. Mais aujourd'hui, il faut être cohérent et étudier la diminution du versement transport. Si vous n'étudiez pas les éléments de diminution du versement transport, je pense qu'on diminue en attractivité. Autre point de réflexion, il est proposé...